En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Lors de la séance du 14 janvier 2007, Denis Pellerin, membre de l'Académie de médecine, faisait une communication en séance devant l'Académie des sciences morales et politiques, consacrée aujourd'hui au thème « Le nouvel aspect de l'âge ». Retrouvons-le immédiatement en séance.
Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Chancelier, Monsieur le Chancelier honoraire, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, prendre la parole ici dans ce cadre exceptionnel est pour moi un insigne honneur. Je mesure le privilège de cette invitation. Monsieur le Président, je ne vais pas vous tutoyer. Je dois sans doute à l'estime et à l'amitié réciproque qui ont toujours marqué nos relations en dépit de la diversité de nos parcours hospitaliers et universitaires, le privilège qui est aujourd'hui le mien. Croyez bien que j'y suis sensible et vous en exprime toute ma gratitude. Vous venez de rappeler que j'ai été chirurgien pédiatre. Je vais vous renvoyer la balle en vous disant que je suis un grand cancérologue. Mais évidemment, ayant été dans mon temps quelque peu pionnier du premier âge, je ne prétendrai pas de ce fait avoir quelque qualité que ce soit pour vous entretenir aujourd'hui du nouvel aspect de l'âge. Monsieur le Président, vous avez bien voulu rappeler des fonctions antérieures. Je reviendrai peut-être très brièvement sur celles qui ont marqué l'étape de la réflexion sur le sujet de l'âge, qui est en réalité la réflexion de notre société elle-même. Lorsqu'il y a plus de 25 ans maintenant, j'ai été élu à la présidence de la commission médicale consultative des hôpitaux de Paris, déjà petit clin d'œil, ça s'appelle maintenant la CME de la PHP. Je prenais des fonctions qui succédaient à 4 années de présidence de ce qu'on appelle le groupe du plan. Le groupe du plan était chargé de réfléchir sur le devenir des établissements, l'évolution en fonction des besoins des patients. Et l'une de mes préoccupations avait été d'apporter tous mes soins à la réflexion sur le problème des établissements dits de long séjour, qui étaient à l'époque en quelque sorte les mouroirs de notre population parisienne, reportés très au-delà de la banlieue et même de la grande banlieue, puisque souvent à plus de 60 ou 80 kilomètres de Paris. Et dès ce moment, je m'étais appliqué, à promouvoir le dévouement et la compétence des médecins généralistes locaux qui assuraient à temps partiel un médecin pour des centaines de personnes et qui assuraient et découvraient ce qui va devenir la discipline encore bien jeune de la gériatrie. Un peu plus tard, dans d'autres fonctions sur lesquelles que tu as évoquées mais sur lesquelles je ne reviendrai pas, j'ai été amené à prendre des attitudes peut-être un peu plus positive. En tout cas, après que pour moi aussi, le couperet de la retraite eut brusquement mis un terme à mon activité chirurgicale, elle était encore intense la veille de ma retraite, j'ai dès lors consacré toute mon activité au domaine que définit si parfaitement, messieurs les académiciens, le thème de votre cycle de conférences « Médecine et société ». Et plus spécialement encore, la réflexion éthique en matière de santé. Mon élection à l'Académie de médecine m'y a immédiatement placé en position de présidence de la commission âge et handicap et de la commission d'éthique. Ceci m'a valu aussi d'être désigné pour siéger au comité consultatif national d'éthique où j'ai siégé pendant 8 ans. À peine étais-je arrivé au comité d'éthique que je me vis confier la mission de remettre en ordre de marche le groupe de travail vieillissement et longévité créé à l'initiative du très regretté président Pierre Larocque. Celui-ci, en effet, estimait que l'accroissement de la longévité remettait en question la définition même de la vieillesse et qu'il y avait nécessité d'une réflexion éthique de la société elle-même. Hélas, sa santé déclinait, il dut interrompre son action et bientôt disparaissait ce grand serviteur de l'État, le père de la sécurité sociale, notamment de l'assurance vieillesse, qu'il avait mise en place en application des ordonnances du général de Gaulle. le vendredi 8 octobre 1998. Le Comité consultatif national d'éthique, au cours d'une conférence de presse, rendait public son rapport numéro 59 sur le vieillissement. J'en étais le rapporteur. Émile-Étienne Beaulieu en avait supervisé les données scientifiques. Les hasards du calendrier avaient fait programmer pour ce même vendredi, certains d'entre vous s'en souviennent probablement, le début vite interrompu du premier débat au Parlement sur le PACS. La presse, tant écrite qu'audiovisuelle, jugea sans doute que pour notre société, le second sujet était de loin de plus grande importance que le premier et ne lui fit aucun écho. Après que le texte intégral du rapport eut été publié dans le numéro 18 de janvier 99, trois mois plus tard, des cahiers du comité, certains, et même d'éminents parlementaires, se sont étonnés. En quoi m'ont-ils demandé l'accroissement de la longévité de notre population concerne-t-il le comité d'éthique? Vous n'avez bien entendu pas l'outrecuidance de leur rappeler que l'article 23 de la première loi de 94, dite de bioéthique, en a défini les missions, donner des avis sur les problèmes éthiques soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé. Le message de ce rapport du communiqué était clair. L'espérance moyenne de vie de l'homme connaît depuis plusieurs décennies la phase de croissance la plus rapide de toute l'histoire de l'humanité. Ce fait représente un problème majeur de notre société pour les prochaines décennies. Les problèmes posés ne sont pas seulement du domaine économique, il convient de les aborder dans leur dimension éthique. Suivait toute une série de justifications chiffrées, les chiffres sur lesquels je me garderai de revenir, ils vous ont été magnifiquement et éloquemment présentés il y a une semaine, ici même, par votre confrère, Monsieur Jacques Dupatier. Je retiendrai simplement du propos de Monsieur Dupatier la chose essentielle, cette longévité va progresser, ça n'est pas un épisode passager. À l'époque où nous avions rapporté ces données, non seulement réflexion éthique, mais même données chiffrées, n'ont eu aucun écho médiatique. Et avec un certain regret, j'ai constaté que, sans bien les comprendre, que notre société semblait se refuser d'entendre ceux qui s'efforçaient de les informer de cette émergence très prochaine, des effets inéluctables de l'accroissement de la longévité de ses membres. Vous les connaissez, il s'appelait Pierre Larocque, je le cite encore, dans son rapport de 1962, Nicole Questio en 71, Robert Lyon en 82. Vous avez reconnu là les auteurs des rapports successifs en préparation des 6e et 7e plans. Et puis encore plus récemment, Michel Rocard dans son livre blanc sur le problème des retraites. Sans vouloir être inutilement polémique, ni m'étonner de ce que même nos responsables politiques semblaient avoir également été tenus à l'écart de cette réflexion, tout au moins publiquement, je me réjouis sincèrement, et m'en excuse, de la prise de conscience des conséquences ultimes et inévitables du vieillissement de la population que la canicule a révélée à notre société. Tout a commencé en août 2003. Il faut saluer comme un progrès considérable les mesures d'assistance aux personnes très âgées, prises dès après l'événement ou encore en cours de mise en place par les pouvoirs publics. Cependant, je persiste à douter que la société française ait réellement bien intégré l'importance de la mutation que les nouveaux aspects de l'âge imposent dès aujourd'hui. Invité par mon éminent confrère, le président André Vacheron, à la séance du 10 mai 2005 qu'il présidait, au cours de laquelle, à l'Académie de médecine, Maurice Tubiana présentait à la tribune notre rapport « Insertion sociale des personnes âgées », Madame Catherine Vautrin, alors secrétaire d'État aux personnes âgées, faisait la même remarque, permettez-moi de la citer. Le jeunisme triomphant d'une société qui n'a jamais été aussi vieille prouve que les représentations collectives sont en décalage complet avec les réalités actuelles et plus encore à venir. Il n'est que d'observer les réactions de rejet stupide d'une modeste mesure de solidarité manifestée moins de 2 ans après l'émotion de l'événement de l'été. J'évoque le lundi de Pentecôte. À l'évidence, la journée des personnes âgées connaît moins de succès que la journée de la musique ou la nuit blanche. Cette incompréhension vient de la confusion entre longévité et vieillissement, entre retraite et vieillesse. Divergence de conception entre le physiologique et le social, confusion entretenue entre les données de la démographie, de la sociologie et de la médecine. Deux données profondément divergentes, peut-être involontairement associées, sont à l'origine de l'actuel profond déséquilibre de notre société. Le premier, le facteur socio-économique lié à l'emploi, donnée majeure de notre politique sociale à l'origine de la retraite. Le second, la grande diversité des conséquences du temps, âge chronologique, sur le vieillissement, âge biologique, de chaque individu. Autrement dit, à longévité égale, l'état de santé des individus peut être fort différent. La retraite. La généralisation et l'uniformisation de l'abaissement de l'âge de la retraite, tel qu'il a été reprécisé et concédé dans les années 80, et jusqu'alors n'a pas été remis en cause, du moins dans son expression législative, a aujourd'hui sur la composition de notre société des conséquences que l'on ne peut plus méconnaître. L'institutionnalisation d'un âge pour le droit à la pension de retraite, car c'est son terme, à taux plein, continue à déterminer le seuil symbolique d'entrée dans la retraite. En signifiant que le droit et la capacité d'exercer sa profession sont arrivés à leur terme, la retraite correspond dans la mentalité collective à l'entrée dans la vieillesse. La vieillesse est devenue le temps du non-travail et du repos. Le retraité est celui qui ne peut plus travailler, un vieux. Plus encore, les pré-retraites qui ont abaissé l'âge de la cessation définitive d'activité professionnelle pour des personnes qui ont encore la capacité physique et intellectuelle au travail ont accéléré le processus d'exclusion de la sphère de production et accentué la perversion de la définition sociale de la vieillesse. Sur le marché du travail, les recrutements de personnel de plus de 50 ans sont très peu nombreux, même dans la catégorie des cadres. Les chômeurs de cet âge sont dans les dernières années de leur cinquantaine dispensés de recherche active d'emploi par la NPE, tout espoir étant considéré comme perdu pour eux. Le chiffre vient d'être révélé, 415 600 seniors en recherche d'emploi ont été rayés des listes de la NPE. Dès lors, ils sont contraints d'attendre l'âge de la retraite en bénéficiant d'indemnités de chômage, voire de prestations, et c'est fréquent, de prestations maladie de longue durée, dont les justifications sont souvent contestables. Cette définition sociale de la vieillesse ne repose sur aucune base biologique. Le vieillissement est un phénomène physiologique normal auquel tous les êtres vivants sont soumis. Le vieillissement est une suite programmée de mécanismes biologiques continus qui se succèdent à des rythmes différents. Le développement, la maturité, la sénescence, dans un processus naturel inéluctable. Le processus de vieillissement est aussi mystérieux que l'ont été les mécanismes de l'hérédité ou des infections, et le sont largement encore ceux de la différenciation cellulaire, de la croissance et des cancers, mon cher président. On ne sait pas dans quelle direction il faudrait à coup sûr orienter les recherches pour en définir les causes premières et y remédier éventuellement, écrivait Émile-Étienne Beaulieu dans le rapport du CCNE auquel j'ai fait référence. Je rappelle qu'à l'époque, il espérait avoir retrouvé l'hormone anti-âge. Il demeure bien difficile d'établir les rôles respectifs des mécanismes auxquels il faut attribuer l'augmentation rapide de l'espérance de vie moyenne depuis le début du XXe siècle. Mécanismes intrinsèques, génétiques, paraissent possibles, sinon probables. Mécanismes extrinsèques, surtout, qui relèvent clairement de l'environnement au sens large du terme. Il y a peu de chances, en effet, que le génome humain ait pu subir des remaniements aussi importants en aussi peu de temps. Le vieillissement n'est pas un mécanisme spécifique de la dernière partie de la vie. Au long des années, il transforme un sujet adulte en bonne santé en un individu fragile dont la compétence et les réserves d'énergie diminuent au niveau de la plupart des systèmes physiologiques. On peut alors parler de sénescence. Les progrès dans l'espérance de vie butent sur un maximum biologique infranchissable, conséquence inéluctable de l'accumulation dans les tissus et dans les cellules de lésions non réparées. Dans de nombreux cas, la fin de vie est caractérisée par la maladie, l'apparition d'états polypathologiques et un état de dépendance plus ou moins accentué. Du remarquable exposé de M. Dupaquier, je ne reprendrai, si vous le permettez, qu'une donnée capitale. La majorité de nos concitoyens ont encore à vivre 20 ou 30 ans lorsqu'ils cessent leur activité salariée et accèdent à la retraite. Évidemment, cette longévité n'a de sens que si elle s'accompagne de la préservation de la qualité de la vie. Mais une donnée nouvelle est apparue où je suis peut-être en désaccord avec votre éminent confrère. L'espérance de vie sans incapacité, c'est maintenant démontré depuis les 20 dernières années, progresse plus vite encore que l'accroissement de la longévité. Dès lors, s'installe un décalage croissant entre l'âge chronologique et l'apparition des phénomènes physiques et biologiques associés à la sénescence physiologique. La santé physique des personnes ayant plus de 60 ans a été prodigieusement améliorée. Retenir qu'en 2010, 12 millions de personnes, je parle en France, 25% de notre population sera composée de personnes âgées de 60 ans ou plus, ne signifie en aucune façon que 25% de notre population sera en état d'incapacité. En 2020, ce sera 17 millions de personnes de plus de 60 ans, dont 2 millions âgés de plus de 80 ans. La question majeure est quelle sera la situation des 15 millions de personnes âgées de plus de 60 ans qui ne relèveront pas, ou pour la plupart pas encore, d'une prise en charge institutionnelle d'un état de dépendance. Dès aujourd'hui, les données démographiques nous font obligation de mettre au premier plan de nos préoccupations la place des 10,5 millions de nos concitoyens officiellement rendus inactifs par des mesures réglementaires désuètes. Il faut donner aux personnes vieillissantes la place à laquelle elles ont droit. Il faut que chacun fasse comprendre à nos politiques et par eux à notre administration que leurs données, leurs rapports, leurs discours sont totalement périmés. Des progrès immenses ont été accomplis qui sont ignorés ou sont occultés. Cette transformation de la condition n'a pas été prise en compte dans la place qu'on accorde aux plus de 60 ans dans la société française. Il faut retenir comme une donnée essentielle, et je le répète encore, qu'il n'y a aucune corrélation étroite entre l'âge chronologique d'une personne et son degré de sénescence. On peut être vieux et même très vieux à 65 ans et même avant. On peut être jeune et même très jeune à 80 ans et plus. Les classiques trans d'âge sont devenus obsolètes. Aucune avancée ne sera possible tant que le public gardera du vieillissement une représentation périmée. Le moment est venu de remettre en question des idées reçues. Il faut, Monsieur le Président, prendre conscience du nouvel aspect de l'âge. Les données du problème sont aujourd'hui très simples. Durant cette longue période vont se succéder à des rythmes divers et pour des durées qui varient selon les individus, non plus des étapes, les quatre âges de la vie, mais des états, situations bien distinctes. Je reprends les termes qui vous ont été révélés, semble-t-il, par M. Dupaquet, du moins pour quelques-uns d'entre vous, jeune, vieux, 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 très vieux. En indiquant simplement mon désaccord avec le conférencier, il n'y a aucune corrélation entre l'un de ces états et l'âge auquel il survient. Les démographes continuent à nous dire, jeune, vieux avant 74 ans, vieux de 74 à 80, vieux, vieux au-delà. Je m'explique. Le premier état est celui du jeune vieux. Quand bien même son âge chronologique le classerait dans la catégorie des vieux et sa situation sociale dans la catégorie des inactifs, le jeune vieux est un jeune physiquement et intellectuellement. S'il a un accident, s'il déclenche une maladie aiguë, il requiert les mêmes soins qu'un adulte plus jeune. Le meilleur conseil qu'il peut recevoir d'un médecin est de demeurer le plus actif possible pour se préparer à bien vieillir. Le maintien d'une activité, son insertion sociale, sont le meilleur garant du maintien de ses capacités physiques et intellectuelles et la meilleure prévention de son vieillissement. Deuxième état, le vieux. Il arrive inévitablement un jour où celui qui se sent toujours jeune commence à percevoir certaines petites difficultés qui rendront plus malaisées ses activités quotidiennes, spécialement ses déplacements et souvent ses relations sociales. On parle de déficit mineur. Ils sont essentiellement d'ordre sensoriel, un déficit d'audition ou de vision, ou concerne l'appareil locomoteur, la hanche, le genou, peut-être une petite perte d'équilibre. Pendant très longtemps, ces petites manifestations de la sénescence ne sont pas en elles-mêmes source de handicap majeur. D'ailleurs, la rapidité de leur évolution varie grandement, elles aussi, selon les tissus ou organes, et encore plus selon les individus. Limité dans ses possibilités relationnelles, cependant, celui qui hier encore était un jeune vieux actif risque d'être conduit à la sédentarité, source d'inaction, d'engourdissement, d'isolement peut-être, il va devenir vieux. aussi longtemps que ne s'y associe aucun déficit cognitif, le vieux garde toutes ses capacités d'autonomie, pour autant que lui sont apportées les compensations et aides nécessaires appropriées. Le troisième état est marqué par les effets des multiples pathologies qui, progressivement et inévitablement, s'associent chez les personnes biologiquement très âgées, indépendamment de leur âge chronologique. Le vieux devient vieux-vieux, vraiment vieux ou très vieux, les termes sont les identiques. Parfois, en effet, les déficits cognitifs peuvent s'associer à un ensemble de déficits physiques et conduire à un état plus ou moins important de dépendance. Ce nouvel aspect de l'âge que constate quotidiennement la médecine et qu'ont relevé, sans peut-être encore bien l'observer, les démographes, impose de remettre en question les idées reçues et de s'engager résolument en faveur d'une autre approche sociale. Pour la personne comme pour la société tout entière, la pire réponse aux conséquences de la longévité serait une attitude uniforme d'assistance et de déresponsabilisation. Il faut cesser de parler avec tristesse du vieillissement de la population. Il faut se réjouir de la possibilité d'une prolongation de la vie active, le seul moyen scientifiquement démontré d'éviter les conséquences négatives du vieillissement physiologique. À chacun des états qui définissent aujourd'hui ce nouvel aspect de l'âge devrait correspondre un ensemble de dispositions propres non pas à assister, mais à permettre à chacun, selon son état, de demeurer intégré, dans la société. Le problème des jeunes vieux mérite une attention toute particulière. Plusieurs voies s'ouvrent pour donner un sens à la vie en fonction des goûts, des compétences et éviter exclusion et vieillissement. Il faut y voir là une nécessité pour ce que, dans la réflexion commerciale, on appelle les seniors. La SNCF nous avait précédé en remplaçant sa carte violette par une carte de senior consommateur. L'une des solutions réside dans la prolongation d'une activité professionnelle. Pour un tiers d'entre eux, la mise à la retraite est un traumatisme physique et psychique. La perte d'identité, le sentiment d'inutilité, le sentiment de condamnation au loisir forcé, l'impression d'une vie morne et désormais dépourvue de sens favorisent l'anxiété et la dépression. Dès lors, il ne faut pas s'étonner qu'une proportion particulièrement élevée et croissante de personnes de ces âges consomment hypnotiques et psychotropes, ce qui montre l'existence des troubles psychologiques. 20% de ces personnes sont des consommateurs de psychotropes et d'antidépresseurs. Un jeune vieux, cependant, dispose de toutes ses capacités, y compris celles que n'ont pas, bien entendu, les plus jeunes, qui, dans l'entreprise ou ailleurs, ont été mis à sa place. Les jeunes ont effectivement des connaissances nouvelles et des capacités nouvelles, nécessaires. Elles ne sont pas forcément les mêmes. Ils n'ont ni l'expérience, ni la sagesse du senior. Ces valeurs ajoutées, messieurs les académiciens, seraient-elles devenues obsolètes ou négligeables, ou notre société est devenue si riche qu'elle puisse désormais si aisément s'en passer? Faire ce constat, poser ces questions, c'est déjà souligner qu'il y a nécessité à ouvrir clairement le débat sur le travail des seniors. Le sujet de la retraite était jusqu'à présent un sujet tabou. L'aborder même sans passion était incorrect, politiquement, parce que touchant à l'un des dossiers sociaux les plus sensibles, non pas celui de la personne retraitée, mais celle du financement des pensions de retraite. Tel n'est pas l'angle d'approche du médecin que je suis, préoccupé de préserver l'état de santé de celui qui, désormais exclu de la vie active, va devoir vivre sa longévité. À cet égard, s'il est parfaitement légitime que celui qui le souhaite puisse bénéficier de la retraite à l'âge légal, voire même avant, la retraite couperet imposée doit être remise en cause. La prolongation d'une activité professionnelle doit pouvoir être, pour celui qui le souhaite, le moyen de donner un sens à sa vie en fonction de ses goûts et de ses compétences et d'éviter exclusion et vieillissement. Les artisans, les petits commerçants, les professions libérales en apportent la preuve. Mais on peut aussi citer l'exemple des artistes, des acteurs, des chanteurs, des musiciens, des peintres. Je pense à Henri Salvador, devant lequel notre société est éblouie, et à juste titre. Ils sont maîtres de leur activité professionnelle, ils sont des modèles de résistance au vieillissement. N'en est-il pas ainsi chez les hommes politiques, pourtant si enclins à pousser leurs concitoyens vers l'inactivité d'une retraite imposée? Loin de critiquer cet état de fait, il faut au contraire que tous ceux qui le souhaitent puissent prolonger leur activité au-delà des obligations réglementaires de temps de cotisation minimale, en leur ouvrant au maximum le droit à continuer à travailler à temps plein ou à temps partiel, de façon salariée ou bénévole. Bien qu'elle n'ait pas été inspirée par les arguments médicaux qui fondent mon propos, quelques dispositions récentes vont en ce sens et doivent être saluées. La loi du 21 août 2003, dite loi Fillon, concernant le cumul d'un revenu et d'une pension de vieillesse, fut un pas courageux et décisif dans une démarche difficile, mais encore combien timide, qui, ayant à peine ouvert la porte, s'empresse de la refermer. Cumul, oui, mais dans la limite du dernier revenu d'activité. L'accord conclu entre le MEDEF et les partenaires sociaux en octobre 2005 pour créer un CDD de 18 mois renouvelable une fois pour les demandeurs d'emploi de moins de 57 ans, dans des conditions fixées à l'avance, avec indemnité de fin de contrat, fut salué par le ministre lui-même, Gérard Larcher, comme l'amorce d'une révolution culturelle, rien de moins. En fait, mesure trop stricte pour les bas salaires. Il est à craindre que la récente disparition de la contribution de Lalande, qu'il faut saluer, ne suffise pas à assurer le succès de ces modestes initiatives. Au sein de trop d'entreprises et de la société tout entière, le travailleur senior est considéré comme un partant. Son apport à l'entreprise est alors d'avance diminué. Les entreprises ont tendance à se débarrasser des travailleurs vieillissants dès 57 ans ou avant par la mise en pré-retraite, notamment en raison des augmentations de salaire avec l'ancienneté. Une réflexion s'imposera tôt ou tard sur ce point. Et pourtant, les arguments ne manquent pas en faveur de la prolongation. Ils sont parfaitement analysés et déclinés au sein du Parlement lui-même par les remarquables travaux du groupe d'études parlementaires sur la longévité, comme au cours de nombreux colloques, séminaires, et on peut même les consulter sur plusieurs sites internet à l'initiative d'organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux. En dépit des nombreux obstacles culturels et juridiques, quelques généreuses ou courageuses initiatives, quelques expériences en cours depuis peu, en particulier dans quelques-unes des grandes entreprises françaises, telles que le tutorat, le mécénat d'entreprise, la réorientation, se sont révélées éclairantes et riches de promesses. Elles restent bien modestes, eu égard à celles déjà engagées à l'étranger. Et faut-il vous rappeler la notion de mature worker aux États-Unis, la prolongation de l'activité au Japon et en Suède passée de 73 et bientôt 75 ans, l'agence gouvernementale Age Positive au Royaume-Uni, qui a fait remonter le taux d'emploi très largement au-dessus de 60 ans, en Allemagne, en Finlande, la progression de l'âge de la retraite vers 68 ans. Et aussi, en regard, le nombre de travailleurs actifs en France âgés de plus de 55 ans plafonne à 37%. On ne peut qu'attendre avec intérêt 31 mesures du plan de développement de l'emploi de plus de 50 ans qui devraient figurer, nous dit-on, dans un projet de loi sur la participation qui devrait, nous dit-on, être prochainement soumis au Parlement. Je ne doute pas que cette période électorale permette de faire avancer largement la réflexion qui s'impose sur ce sujet. En effet, la France ne peut rester à la traîne sur un sujet d'une telle importance. Elle n'en est restée qu'à des mesures timides du fait de l'opposition des syndicats de salariés à toute évolution en ce sens, il faut le reconnaître. Il conviendrait sans tarder que changent les mentalités. C'est aussi ce qu'indique le très récent rapport du Conseil d'orientation des retraites. Mais au-delà du problème de financement des retraites qu'il aborde, plusieurs autres arguments incitent à aller dans cette voie. Les arguments biologiques, sur lesquels j'insistais tout à l'heure, 80% des personnes arrivant à l'âge de la retraite sont en excellente condition. Les arguments éthiques, toute discrimination fondée sur l'âge devrait être bannie. Les considérations économiques ne peuvent être tues en termes de services rendus à la collectivité. Les jeunes vieux représentent un potentiel d'activité et de productivité dont la société ne peut plus se priver, d'autant que la pénurie prévisible en personnel qualifié handicapera sans doute au cours des prochaines décennies la France ainsi que les autres pays industrialisés. Considération économique enfin, mais en termes de santé publique, où je suis concerné, par la réduction des coûts pour la collectivité que peut générer la prévention du vieillissement de la population, puisque c'est le vieillissement qui engendre dépenses de soins et d'assistance. Aucune solution uniforme ne saurait être imposée. Cela souligne la nécessité d'une période de transition. Poursuivre une activité professionnelle ou envisager d'avoir une activité pleinement reconnue jusqu'à 65 ans, 70 ans ne s'improvise pas. Cela nécessite la recherche des activités spécifiques, créatrices de valeur ajoutée, que les seniors sont capables d'exercer de façon optimale grâce à leurs compétences et à la confiance qu'inspire leur expérience. Cela implique que l'entreprise et le travailleur concerné envisagent ensemble comme c'est fait à titre expérimental actuellement, dès l'âge de 45-50 ans, la recherche des moyens de tirer parti dans les meilleures conditions de l'expérience de l'individu, de ses qualités professionnelles. Bref, de mettre en perspective l'évolution de ses tâches jusqu'à 65 ans, voire au-delà. C'est au moment où se profile la cessation de ce que fut son activité principale que serait utile et même indispensable une consultation de prévoyance et d'information sur les perspectives qui s'ouvrent à l'individu, lui donnant des indications sur son état physique et sur les mesures spécifiques qui peuvent le concerner. Elle permettrait à certains, dès 45-50 ans, de réorienter ses activités au sein de l'entreprise, prenant en compte éventuellement les petites difficultés débutantes face aux horaires décalés, aux postures pénibles, à la pression temporelle. Les travaux de Serge Volkoff à cet effet sont remarquablement illustrants. Encore faudrait-il que les entreprises y soient favorables. Parfait. Je trouve ici l'occasion d'exprimer ma crainte que l'actuel projet d'une consultation médicale pour toute personne atteinte de 70 ans, louable dans le but de déceler les troubles débutants de la mémorisation, soit moins une occasion de prévoyance que de prescription inutile de médicaments du mal-être du retraité inactif. 35 minutes exactement. Alors on va vous opposer le bénévolat, nous pourrons en reparler dans la discussion, je passe sur le bénévolat, dès lors que nous venons maintenant de savoir que seulement 20% des personnes à la retraite avaient des activités bénévoles, et d'autant plus que nous sommes inquiets de savoir que les dispositions législatives prises en faveur du recrutement de salariés par les associations avaient pour but beaucoup plus de procurer du travail à des CPE jeunes qu'aux retraités. Donc, je passe là-dessus. J'aborde beaucoup plus rapidement, Monsieur le Président, soyez tranquille, le deuxième état, le jeune vieux. Parce que, je l'ai dit, le jour va arriver où le jeune vieux commence à percevoir de petites difficultés. Ces petites manifestations sont parfaitement surmontables, l'opération d'une cataracte, d'une hanche, etc. Mais il faut savoir que toute intervention à cet âge, toute activité à cet âge, doit bénéficier d'un encadrement gériatrique qualifié en raison des risques que peut procurer la moindre action thérapeutique sur un organisme éventuellement fragile. L'âge fragilise et augmente la fréquence des affections aiguës ou chroniques. La surveillance par un médecin compétent en gériatrie est nécessaire. Il faudrait surtout que l'on cesse de présenter ces petits troubles du vieux sous la dénomination fataliste du handicap lié à l'âge, car ne pas chercher à y faire face ne peut que contribuer à l'augmenter. Or, il ne faut pas s'en remettre seulement à la médecine. La loi sur les handicaps du 12 février, dont on peut saluer toute l'importance pour les jeunes handicapés, adultes handicapés, ne s'intéresse pas au problème de handicap de l'âge. Nous espérons beaucoup que ceci viendra ultérieurement. Car les dizaines de millions de personnes qui ont ces petits handicaps physiques appellent à l'évidence des décisions qui sont de la responsabilité politique. L'urbanisme, les services administratifs devraient impérativement tenir compte de la présence de millions de personnes, faciliter leurs déplacements et leur vie quotidienne. J'observe qu'à Paris, des dépenses considérables ont été engagées pour créer des voies cyclistes. Elles compliquent la traversée des rues. Elles ont déjà donné lieu à des accidents chez les personnes âgées. Elles n'ont en rien facilité l'accès aux transports publics. Les escaliers roulants sont toujours aussi rares. Et non seulement ceux pour monter, mais aussi ceux pour descendre. Car c'est en descendant qu'une personne de cet âge souffre. Ce n'est pas tellement en montant. Trop d'immeubles n'ont pas encore d'ascenseur. Selon que ces aménagements seront concédés ou pas, ceux qui sont vieux, quel que soit leur âge civil, pourront mener une vie quasi normale ou au contraire se sentir rejetés, conséquences fâcheuses pour elles-mêmes, mais aussi pour la société en termes de coûts. Et je terminerai plus brièvement encore en parlant du très vieux, à l'âge biologique avancé qui recule constamment. Inévitablement, les difficultés vont provoquer un amoindrissement des possibilités physiques, créant des situations d'instabilité et de vulnérabilité. Mais tant qu'est absent ou encore minime le déficit des fonctions cognitives, qu'il soit ou non en rapport avec la maladie d'Alzheimer, le maintien au domicile demeure la meilleure réponse au respect de la dignité de la personne. Il faut être cependant conscient de l'isolement, de la solitude qui accroît et les risques de décompensation d'être fragile, Très justement, Monsieur Dupaquis a insisté sur la solitude des veuves, des femmes âgées plus nombreuses que les hommes. Le rapport Palak, publié en 2004, indique que 90% des personnes âgées de plus de 75 ans, dont 64% de personnes de plus de 90 ans, vivent à leur domicile. Le recours aux institutions médicalisées se situe aujourd'hui au-delà de 86 ans pour des durées qui ne dépassent pas 400 jours. Les mesures prises à l'heure actuelle, sur lesquelles nous reviendrons si vous voulez, vont tout à fait dans le bon sens. Elles sont encore insuffisantes et en tout cas se heurtent à des complexités administratives qu'il conviendra bien entendu de lever. Il est enfin inévitablement la douloureuse fin de vie, terme inéluctable, ultime aspect de l'âge, mais d'un âge bien vécu. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Chancelier, Monsieur le Chancelier honoraire, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, permettez-moi de formuler le souhait qu'au nouvel aspect de l'âge qui s'impose à nous aujourd'hui, notre société sache répondre par un nouveau regard sur sa nouvelle longévité. La vieillesse est un naufrage, avait dit le général de Gaulle. Voulez-vous me permettre de choisir pour conclure un propos de votre éminent regretté confrère, M. Jean Guiton, plus optimiste? Je le lis. Désormais, et sans doute pour toujours, il n'y a plus de vieillesse. L'hygiène, les soins, les phares ont à jamais effacé les rides. Désormais, la vie présente des âges qui sont des jeunesses successives. Et il ajoutait, nous naissons vieux, disait Lacordaire, il faut tâcher de mourir jeune. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre Denis Pellerin, membre de l'Académie de médecine, faisant une communication devant l'Académie des sciences morales et politiques consacrée au sujet « Le nouvel aspect de l'âge ». Cette communication s'inscrit dans le thème annuel de réflexion de l'Académie des sciences morales et politiques consacré en 2007 au thème « Santé, médecine et société ». C'était le 14 janvier 2007.